France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Images et visages du théâtre d'aujourd'hui. Jean-Roger Caussimon par Moussa Abadi en 1971. Jean-Roger Caussimon, né en 1918, il se disait l'enfant d'une permission car son père, médecin, avait combattu à Verdun. Jean-Roger Caussimon avait débuté en 1937 au théâtre Trianon à Bordeaux. Il est mort en 1985, laissant une trace profonde, devenu comédien, sa première vocation, puis l'auteur de nombreuses chansons qu'il finit par accepter de chanter lui-même, et qui furent reprises par Léo Ferré, telles la chanson « À la Seine » ou encore le très célèbre « Monsieur Williams ».
Nous vous invitons à écouter Images et visages du théâtre d'aujourd'hui, une émission de Moussa Abadi, réalisée à notre intention par l'Office de radiodiffusion télévision française à Paris. Entretien avec Jean-Roger Caussimon. Vingt-cinq ans après ses débuts dans la chanson « Au lapin agile », Jean-Roger Caussimon vient d'enregistrer chez Sarava son premier disque, un micro-sillon où il a réuni quelques-uns de ses plus beaux poèmes mis en musique pour la plupart par Léo Ferré et entre autres « Mon camarade »,« Nous deux »,« Le temps du tango », »,« Comme à Ostende »,« Le funambule »,« Les cœurs purs » et le très célèbre « Monsieur William ».
C'était vraiment un employé modèle, Monsieur William. Toujours exact et toujours plein de zèle, Monsieur William. Il arriva jusqu'à la quarantaine, sans fredaine, sans le moindre petit drame. Mais un beau soir du mois d'août, il faisait si bon, il faisait si doux, que Monsieur William s'en alla flâner droit devant lui au hasard, et voilà. Monsieur William, vous manquiez de tenue, qu'alliez-vous faire dans la 13e avenue?
Ce que j'ai essayé de graver sur ce disque, dit Jean-Roger Caussimon, ce n'est pas une interprétation parfaite à laquelle je ne prétends pas. J'ai tenté simplement de retrouver l'émotion première d'un auteur devant un texte qui lui vient, d'où il l'ignore, en grattant une guitare sèche ou en tâtonnant sur un clavier. Mais ce poète, ce fidèle et fervent amoureux de la chanson, est aussi, et c'est l'avis de tous les connaisseurs, de tous les amateurs de théâtre, l'un des comédiens les plus fins, les plus sensibles et les plus doués de sa génération. Rappelons que, depuis sa rencontre avec Charles Dullin à son retour de captivité à la fin de la dernière guerre, il a créé ou repris à Paris, sous les directions de Jean Mercure, de Jean-Pierre Grenier et Olivier Husnault, de Jean Villard, de Michel Vitold, de Pierre Valde, de Maurice Jacquemont, d'André Barsac et de Roger Planchon, plus d'une quarantaine de pièces de tout genre, dont « Maître après Dieu » de Fritz Horwalder, « La visite de la vieille dame » et « Franck V » de Durenmatt, « La logeuse » d'Oliberti et « Le paria » de Graham Greene. Il a tourné en outre une soixantaine de films, dont « Juliette ou la clé des songes »,« French Cancan » et « L'auberge rouge ». Et cet artiste de haute qualité, qui a horreur de parler de soi parce qu'il est la modestie même, a bien voulu néanmoins se joindre à nous aujourd'hui pour vous présenter son premier disque et évoquer par la même occasion ses débuts au théâtre et au cabaret. Voici donc Jean-Roger Caussimon.
Je suis né à Paris le 24 juillet 1918. Et ensuite, j'ai fait mes études à Bordeaux.
Où votre père était médecin.
Où mon père était médecin et où mon père est toujours médecin. Il exerce toujours.
Et tout en faisant vos études au lycée de Bordeaux, vous suiviez des cours d'art dramatique.
Je suivais des cours d'art dramatique que ma maman m'avait conseillé de faire. Parce que dans le sud-ouest, nous avons un charmant accent chantant, qui n'a pas tout à fait disparu. D'ailleurs, chez moi, j'en ai gardé un petit peu. Mais à 12 ans, j'ai commencé à prendre des cours de diction avec un professeur qui était un ancien comédien de l'Odéon, qui était vraiment le comédien de l'Odéon type, je m'en rends compte maintenant, une rondeur avec de beaux cheveux ondulés, et qui avait chez lui des grandes caricatures, qui avait emmené des dessins de lui le représentant, tenant l'Odéon comme une cage à oiseaux. Enfin, c'était très sympathique.
Et vous avez été au conservatoire aussi.
Je suis allé au conservatoire de Bordeaux également, où je suis resté 2 ans. Et la première année, j'ai eu un premier accessit de comédie, premier accessit de tragédie. Et la deuxième année, qui coïncidait d'ailleurs avec ma classe de philosophie au lycée, et mon activité de comédien au théâtre de Trianon, c'est-à-dire que j'étais à la fois lycéen, comédien et élève au conservatoire. La deuxième année, j'ai eu la chance d'avoir mon premier prix de comédie.
À 17 ans.
À 17 ans.
Mais alors ce goût du théâtre, comment vous est-il venu ?
Il m'est venu très tôt. J'ai été décidé vers l'âge de 11 ans et demi. Mon père m'avait emmené voir une matinée classique au Grand Théâtre, dans ce merveilleux théâtre de Bordeaux. Et j'ai le souvenir très précis d'avoir vu jouer Ruy Blas par Albert Lambert. Il devait avoir 70 ans, 72 ans, il le jouait avec une fougue, une verve, et en y croyant de telle façon que ça m'a semblé vraiment être un métier, le seul métier que je puisse faire. Alors je n'ai pas insisté du côté des études, et j'ai commencé vraiment à vivre ma vie de comédien, à gagner ma vie comme comédien. Parce qu'il y avait à Bordeaux, à ce moment-là, un charmant petit théâtre qui s'appelait le Trianon Théâtre, qui s'appelle toujours ainsi, mais c'est un cinéma maintenant. Et par chance, son directeur était aussi mon professeur au conservatoire. Alors j'ai commencé, dans la plus grande joie, vraiment en étant deuxième régisseur, accessoiriste et comédien. Il y avait toujours un rôle qui m'était distribué dans une pièce. Mais je vivais pratiquement au théâtre. Je me levais à 6 heures, j'allais chercher... Nous jouions une pièce par semaine. Alors j'allais chercher les accessoires, les pendules, les tableaux, tout ce qui était nécessaire, avec une charrette à bras dans les rues de Bordeaux, chez tous les fournisseurs qui avaient la gentillesse de nous prêter ce matériel.
En quelle année êtes-vous venu à Paris ?
Je n'ai pas beaucoup la mémoire des dates. Je suis venu à Paris, je pense, ce doit être vers...
36, 37
38.
38.
Je suis venu en 38. Malheureusement, tous les événements politiques qui ont suivi 38 et l'approche de 39 ont fait que j'ai été obligé de remplir les devoirs que m'imposait mon uniforme de soldat, c'est-à-dire de partir dans l'Est.
Vous avez été fait prisonnier ?
J'ai été fait prisonnier, oui.
Et à votre retour de captivité, vous avez débuté au théâtre en 1943 à Paris.
À mon retour de captivité, je suis allé voir directement le premier jour de mon arrivée. Je suis allé voir Charles Dullin, qui était au théâtre de la Cité. Et je lui ai dit, Monsieur Dullin, j'ai toujours eu... Je connais toutes les pièces que vous avez montées parce que j'allais lire à la bibliothèque de Bordeaux les petites illustrations. Je lui ai cité toutes les pièces. Je voyais toutes les photos, tous les extraits de pièces. Et je lui ai dit, j'ai... Une ambition dans ma vie, c'est de jouer chez vous, de venir travailler avec vous. Alors il m'a écouté très gentiment. Nous avons bavardé pendant une heure et demie. Et il m'a dit, bon, écoutez, vous allez descendre. J'ai un comédien qui s'en va dans Richard III, qui doit partir dans 4 jours. Est-ce que vous voulez jouer le premier bourgeois dans Richard III ? Je vous engage. Ça a été une journée merveilleuse.
Mais vous avez joué chez lui Mamouret.
J'ai joué Mamouret chez lui, j'ai joué dans Richard III, Morin des Morts.
Volpone.
Monsieur de Pourceaugnac. Et alors un des plus grands souvenirs que j'ai de rôle, enfin, c'est de jouer à ses côtés Corbaccio dans Volpone.
Oui. Vous avez appris beaucoup auprès de Dullin.
Beaucoup. Et je me souviens pendant les répétitions, c'était très impressionnant pour nous de l'avoir près de nous. Et je me souviens quand il indiquait des rôles aux jeunes premières, il le faisait de façon avec une légèreté, une vérité extraordinaire. Alors nous étions intimidés, moi particulièrement. Il me disait, écoute mon petit, apporte-moi quelque chose, fais quelque chose. Si tu ne m'apportes rien, je ne peux rien te dire. Trompe-toi, mais va jusqu'au bout. Ouais. C'est un merveilleux souvenir, plus des conseils techniques, des petites choses de théâtre. Enfin, on apprenait beaucoup. C'était vraiment un plaisir en même temps qu'une école.
En tout cas, depuis vos débuts chez Charles Dullin, vous avez joué une quarantaine d'œuvres dramatiques.
Une quarantaine de pièces.
Sous la direction de Jean Mercure, de Grenier-Husnault, Jacquemont, Barsac,
Jean Villard,
Vitold,
Pierre Wald.
Vitold, je citerai quelques titres parmi beaucoup d'autres. Les Gueux au paradis, Maître après Dieu de Jean de Hartog, mise en scène par Jean Mercure. Sur la terre comme au ciel, d'Or Valder, mise en scène également par Jean Mercure. La visite de la vieille dame et Franck V de Durenmatt à l'atelier. Vous aviez d'ailleurs adapté les lyriques de
Franck
V.
De Franck V, oui.
Vous avez joué également La logeuse de Diberti.
Oui,
mise en scène par Pierre Wald.
Oui.
Living Room et Le Paria de Graham Greene, mise en scène par Jean Mercure.
Oui.
Le Paria est... Plus particulièrement, un acte du Paria est un de mes plus beaux souvenirs de théâtre. Vous y jouiez le rôle d'un abbé qui avait perdu la foi.
Qui avait perdu la foi et qui sombrait dans l'alcoolisme.
Oui. C'est une des plus belles scènes du répertoire moderne.
C'est une des plus belles scènes que j'ai jouées. Et je dois dire que j'étais guidé par Jean Mercure, qui est un directeur d'acteurs, comme il nous en faudrait beaucoup.
Quels sont les rôles qui vous ont le plus intéressé ?
Bien, vous savez, je n'ai pas d'ingratitude du tout et je suis... C'est une chose que j'ai toujours cherchée dans ma vie et que je cherche toujours, c'est de faire des choses différentes. Je me souviens, par exemple, il est évident que Maître après Dieu reste un souvenir extraordinaire pour moi, mais j'aime autant aussi l'avocat Beg de l'Hôtel du Libre-Échange chez Grenier-Husnault.
Oui.
Ce sont de merveilleux souvenirs, ça. J'ai autant de plaisir à jouer Orgon dans Tartuffe, par exemple, que jouer une pièce de boulevard bien faite, ou même un burlesque.
Cet abbé du Paria, c'est tout de même un rôle très important.
Oui, évidemment. J'en garde un très bon souvenir.
Quand vous préparez un rôle, est-ce que vous vivez avec votre personnage ?
Oui, malheureusement, justement, je ne citais pas ce rôle de l'abbé Califère. Je ne le citais pas comme un souvenir de premier plan, parce que il m'avait rendu pratiquement malade, ce rôle-là. J'étais, au point de vue nerveux, arrivé à quelque chose, pas une déchéance pareille à celle du personnage, mais au point de vue nerveux, c'était extrêmement difficile. C'était un personnage qui entrait, qui était presque un clown, et le tableau se finissait par une scène de larmes. Enfin, c'était très difficile à jouer. Et cette tension nerveuse qui était demandée tous les soirs m'avait complètement fichu par terre.
Vous vous laissez habiter par le personnage.
Oui, on a du mal à s'en défendre, ça. Oui.
Et ça vous restait après la représentation ?
Et ça m'a resté, oui. J'avais une espèce de déséquilibre nerveux que ce personnage avait. J'avais du mal à m'en défaire à la ville.
Oui. Et les rôles que vous auriez aimé jouer, que vous n'avez pas joués ?
Oh mon Dieu, je n'y pense pas très souvent. C'est presque tout du Molière que je voudrais jouer. Je voudrais jouer Arnolphe dans L'École des femmes.
Ah oui.
Mais déjà, le temps passe.
Et Don Quichotte.
Oui, c'est-à-dire Don Quichotte, je m'en méfie toujours un peu, parce que c'est un personnage qui a tant de significations profondes, et il y a toujours un petit peu un malentendu entre lui et le public.
Dans Shakespeare, vous n'avez joué qu'un seul Shakespeare, celui de Dullin, le Richard III ?
J'ai joué le Richard III, mais j'ai joué à la radio, j'ai eu le plaisir de jouer le Roi Lear. Évidemment, ce sont des sommets de...
Ça ne vous tenterait pas de le jouer sur une scène ?
Bien sûr que si.
Comment êtes-vous venu à la chanson, Jean-Roger Cossimon ?
J'avais débuté au Lapin Agile avec des poèmes. Des poèmes en vers libre,
des poèmes de votre cru.
Oui, que j'avais ramené d'Allemagne, que j'avais écrit là-bas. Et le Lapin Agile est toujours d'ailleurs une espèce, pas de musée, je n'aime pas ce mot, au contraire d'un endroit où on garde vivant la chanson française. Et j'ai été J'en entendais tous les soirs, j'entendais mes camarades chanter, je disais, moi, je ne fais que dire, c'est quand même... J'aimerais bien chanter aussi. Et entre les chansons de marin et le bruant, je crois que j'étais dans un climat tout à fait propice pour voir comment une chanson est faite, comment on aborde ce langage particulier qu'est la chanson.
Vous avez toujours écrit des poèmes, dès votre plus jeune âge?
Comme tous les adolescents, je pense.
Et vous avez continué?
J'ai eu une petite période d'arrêt, et puis ça a repris dans cette espèce de solitude de la captivité. Solitude en commun.
Vous avez là devant vous un recueil de vos poèmes paru aux éditions Segers.
Oui.
Je voudrais vous demander de l'ouvrir et de choisir là-dedans un poème que vous lirez à nos auditeurs.
Volontiers.
Les belles nuits. À marche lente, me voici revenu de la nuit. Il y avait un décor de carrefour et rien que la lune par là-dessus. Me voici revenu de la lumière des fantômes. Me voici tout humide. Je sors des brouillards clairs de la nuit des temps. Et mon visage n'est-il pas blanchi de cette chaux bleutée que partout versait la lune? Moi, quand je n'ai rien à dire, je me tais. Je ne fais pas de phrases pour en faire. Mais c'est si rare de voir une vraie belle chose qui fait du bien au cœur et donne envie de pleurer, qu'il faut absolument le dire aux autres. Et je dis, il y a de bien belles nuits, et rien de plus, parce que c'est difficile à dire en vers avec des rimes. Il y a de bien belles nuits. Je me suis étendu sur la terre. J'ai embrassé du regard le plus possible de ce vaste ciel bleu profond, avec l'espoir qu'il y aurait pour moi un miracle, que la loi de la pesanteur perdrait en ma faveur un peu de sa rigidité, que je pourrais voler, à condition d'être discret. Mais je n'ai pas assez purifié mon âme. Elle est encore trop matérielle. Je suis encore trop heureux de tenir ferme au sol. Mais un jour, malgré le bois, malgré la pierre, il y aura bien de moi un reste de poussière, ne serait-ce qu'un petit grain, que le vent prendra dans sa ronde. Et je ferai le tour du monde. Je volerai dans les rayons de lune et cela ne finira jamais parce qu'un seul grain de poussière, c'est indivisible, immortel. Et vous, mon Dieu, qui m'entendez, faites, je vous en supplie, que ce petit reste de moi, ce rien de poussière perdu, puisse se souvenir du garçon que je fus. Ce garçon un peu fou, qui venait dire simplement, en joyeuse confidence, il y a de bien belles nuits.
Merci. Quand on vous dit, Jean-Roger Cossimon, que vous êtes un poète, vous avez l'habitude de répondre « Je ne suis pas poète, mais chansonnier ».
Oui.
Qu'est-ce que cela veut dire?
Chansonnier, vous savez, c'est une appellation très noble. C'est déjà assez ambitieux de ma part de vouloir y prétendre. Mais je pense que j'écris des choses familières, des couplets, des refrains de chansons.
Et des poèmes?
Oui, enfin, tellement simple. Je pense que tout le monde... Alors, la France est remplie de poètes, parce que je connais beaucoup de gens qui écrivent pour leur plaisir et qui écrivent aussi très bien. Non, pour moi, la poésie, c'est quelque chose... C'est Apollinaire, c'est Audiberti, c'est...
Quels sont vos poètes préférés?
J'aime beaucoup Victor Hugo.
Ah.
Oui, j'ai une très grande admiration pour lui.
Et vous venez de citer Apollinaire.
J'ai aussi beaucoup d'admiration pour Apollinaire. Je me sens moins proche de lui, mais évidemment, et Verlaine, bien sûr, et Rimbaud. Moi, je ne viens pas apporter quelque chose de plus à la poésie. Je suis un héritier de tous ceux qui m'ont précédé. On est je suis le petit-fils ou l'arrière-petit-fils de toutes ces générations de poètes.
Vous avez écrit des chansons pour quelques-unes des plus grandes vedettes du cabaret et du music-hall. Vous avez écrit des chansons pour Léo Ferré, pour Catherine Sauvage, pour Maurice Chevalier,
oui,
pour les frères Jacques. Et vous venez, 25 ans après vos débuts dans la chanson, d'enregistrer votre premier micro-sillon. Dans ce disque, il y a 13 chansons. Les Camions, Galilée, Batelier mon ami, Les Indifférentes, Monsieur William, une de vos plus vieilles chansons, Ma mère, Mon camarade, Le jour viendra, Nous deux, Le temps du tango, Comme à Ostende, Les funambules et Les cœurs purs. Je voudrais choisir avec vous deux chansons pour les présenter à nos auditeurs.
Eh bien, je pense que nous pourrions écouter Le funambule et Les cœurs purs, qui sont deux chansons récentes que je viens d'écrire. Il y a évidemment Monsieur William, que j'aime bien, qui est une pièce assez curieuse, parce qu'il a 26 ans, Monsieur William.
26 ans.
Ça a été une des premières chansons que Léo Ferré a mise en musique.
Que racontent les funambules ?
Le funambule, c'est dans l'atmosphère du cirque, enfin, qui est à la mode aujourd'hui, avec le film de Fellini. Mais c'est l'histoire, je pense, dans cette atmosphère, c'est une chanson symboliste, peut-être. C'est peut-être moi-même. C'est quelqu'un qui est débarrassé de complexes ou de choses de l'âge, équilibré de toutes ces choses-là, arrive à faire ce pourquoi dans la journée il est un peu gêné pour le réaliser. Je ne sais pas, je m'explique un petit peu mal parce que je n'aime pas parler beaucoup de moi.
Tous ses copains du cirque forain, pas un n'avait dit au vieux funambule qu'il était aussi parfois somnambule. Ça n'aurait servi strictement à rien. Le public partit quand la lune dehors, à travers les trous de la vieille toile, allumait un ciel tout rempli d'étoiles. Le vieux funambule arrivait alors. Qui n'était pas tellement sûr de lui, qui souffrait des reins, qui avait des vertiges, était tout changé, c'était un prodige. Oui, c'était vraiment le jour et la nuit. Plus besoin d'ombrelles ou de balancier, les sauts périlleux devenaient faciles. Il était gracieux, il était agile, comme un demi-dieu sur son fil d'acier. Ce fut ainsi qu'un enfant le vit, un enfant puni ou un fils de pauvre, qui s'était glissé dans l'odeur des fauves et qui le suivait d'un regard ravi. Spectateur fortuit de ce numéro, l'enfant applaudit à tant de merveilles, mais un somnambule, quand on le réveille, comme un funambule, ça tombe de haut. Tous ses copains du cirque forain, pas un n'avait dit au vieux funambule qu'il était aussi parfois somnambule. Les gens du voyage sont des gens très bien.
Et Les cœurs purs.
Les cœurs purs est très récente aussi, enfin elle doit avoir 3 ans. J'ai entendu beaucoup parler des jeunes qui ont beaucoup fait parler d'eux aussi.
Et je n'aime pas qu'on généralise trop les choses que, lorsqu'on dit les jeunes, ça a une nuance péjorative au départ, parce que je pense qu'ils sont de plus en plus nombreux et c'est notre espoir à nous et notre confiance en l'avenir.
Ils ne sont pas encore amis, des notaires et des notables. Ils ne sont pas encore admis à dîner le soir à leur table. Ils ne sont pas encore polis comme papa le fut toujours. Ils ne sont pas encore salis par les combines au jour le jour. Mais on leur dit que ça viendra, et bien sûr, ils ne le croient pas. Les cœurs purs, ils ne sont pas encore rusés, ni blasés d'être un peu bohèmes. Ils ne sont pas encore usés par le métro des matins blêmes. Ils ne sont pas encore conscrits, bien qu'ils soient souvent engagés. Ils ne sont pas encore inscrits, ni au chômage, ni au congé. Mais on leur dit que ça viendra, et bien sûr, ils ne le croient pas. Les cœurs purs, les cœurs purs. Ils ne sont pas encore lassés d'écouter chanter leur idole. Ils ne sont pas encore blessés par le temps qui tant nous désole. Ils chantent des sons sur un banc, ils n'ont pas honte de la rue. Ils ne sont pas encore perdants, ils ne sont pas encore perdus. Mais on leur dit que ça viendra. Moi, bien sûr, je souhaite tout bas que ça dure. Les cœurs purs.
Qu'est-ce qu'une bonne chanson pour vous, Jean-Roger Cosimo ?
Une bonne chanson pour moi, c'est une chanson qui me touche, qui m'émeut, parce que je pense que même dans le registre comique ou fantaisiste, il y a les choses qui vous accrochent. Par exemple, comme j'ai entendu des chansons comiques d'un camarade comme Pierre Perret, il y a des trouvailles poétiques, des choses amusantes et c'est un genre de comique lorsque il atteint cette perfection, cette invention dans la poésie qui est quand même touchante, bien que la chanson soit gaie. Vous savez, il n'y a pas de loi, c'est un instinct. Une chanson a besoin d'être absolument... Enfin, pour ma part, on peut très bien la fabriquer. Il y a d'excellents fabricants de chansons qui arrivent à écrire de belles chansons. Moi, je n'ai pas ce métier-là. Je pense que la chanson doit être inspirée, elle doit être vraie dans son inspiration. Et elle peut être gauche, et elle peut être maladroite. Dès l'instant qu'elle est inspirée, qu'elle a eu besoin de venir, c'est que je crois que c'est une bonne chanson.
Qu'est-ce qui vous procure le plus de plaisir, jouer la comédie ou chanter ?
C'est jouer la comédie d'abord, parce que
c'est essentiellement comédien.
C'est la raison d'être de mon existence, d'être comédien. Je pourrais dire que c'est mon amour et que la chanson est ma tendresse.
Vous venez d'entendre Images et visages du théâtre d'aujourd'hui, une émission réalisée à notre intention par l'Office de Radiodiffusion Télévision Française à Paris. C'était un entretien avec Jean-Roger Cossimon. Prise de son Michel Rousseau, texte dit par Pierre d'Ivoire.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 1er avril 1971.
I haven't ever